Je ne suis pas sûre qu'il faille vous présenter, Amos Oz. On va donc réduire les présentations minimum parce que ce sont vos mots et pas les miens que le public est si nombreux venu entendre. Et il a, comme lors de la dernière rencontre vendredi au Salon du Livre, je voudrais quand même reparler de cette rencontre parce que grâce à vous, tout le public a regardé ses chaussures. Parce que vous avez confié combien un écrivain est toujours aux aguets, et donc vous avez dit « je vous parle et je regarde vos chaussures ». Donc je pense que plus personne ne va regarder ses chaussures de la même façon. En tout cas, moi, ça fait 3 jours qu'il y a un petit trauma avec la chaussure. Et tout ça m'a rappelé votre autobiographie. Dans Une histoire d'amour et de ténèbres, vous écriviez « mon tout premier souvenir est une chaussure ». Donc, est-ce que vous croyez, Amos, que ce sont nos souvenirs qui dictent aussi l'endroit où se porte notre regard d'aujourd'hui ?
Je pense que les souvenirs nous créent. Ce sont les souvenirs qui nous font.
אני חושב שכל אדם הוא צרור מהלך של זיכרונות, וכל יום שעובר עלינו הוא תוספת לזיכרון שכבר צברנו.
Je crois que chaque homme est une gerbe de souvenirs, et chaque jour qui passe ajoute des souvenirs à cette gerbe.
אבל הזיכרון איננו דבר סטטי, איננו ארכיון, איננו ספרייה, הזיכרון הוא דבר חי ודינמי.
Mais la mémoire, ce n'est pas statique, ce n'est pas une bibliothèque, c'est quelque chose de vivant, qui bouge.
בזיכרון הדברים מתערבבים, הם גדלים וקטנים, משתנים, מתאבטים, מקבלים צורות חדשות.
Dans les souvenirs grandissent, la mémoire, les souvenirs grandissent, ils rapetissent, ils changent de forme, ils se courbent.
החלומות שלנו עשויים בעצם מזיכרונות ומחזויות, מציפיות לעתיד.
Nos rêves sont faits en fait de souvenirs et d'espérance pour l'avenir.
מה שנוגע לסופר הוא בכלל אדם שנעול בתוך הזיכרונות שלו.
En fait, un écrivain, c'est un homme qui est enfermé dans ses souvenirs.
הסופר הוא בעל חיים מוזר, הוא נולד כשהראש והצוואר שלו מסובבים לאחור.
En fait, un écrivain est un être bizarre qui naît avec sa tête et son cou tournés vers l'arrière.
Alors quand vous retournez vers l'arrière, apparaît votre famille, une somme de personnages tchekhoviens un peu inadaptés à la vie réelle, des intellectuels, des rêveurs. C'est cette atmosphère première qui vous a ouvert peut-être à ce que la littérature russe appelle les hommes de trop, les Lichnitchelaviek, ce depuis que pour la première fois Tourguenieff les a décrits dans le journal d'un homme de trop en 1850. Est-ce que c'est ce regard-là sur les hommes inquiets, velléitaires, qui vous accompagne?
J'étais un enfant de la littérature russe avant même de lire la littérature russe. J'ai grandi parmi des êtres dont les pensées, dont les idées étaient tolstoïennes.
הנשמה שלהם הייתה דוסטויבסקאית, אבל הקיום שלהם היה צ'כובי.
Leur âme était dostoïevskienne, mais leur vie était une vie tchékovienne.
גדלתי בעצם בין אנשים שנמצאו בארץ ישראל בגלות, ואני לא ידעתי שהם בגלות.
J'ai grandi parmi des gens qui se trouvaient en Israël, mais qui étaient en fait dans la diaspora, et je ne savais pas qu'ils étaient dans la diaspora.
בני משפחתי היו אנשים אירופאים בכל מאודם ובכל ליבם.
Mes parents, les membres de ma famille, étaient des Européens de tout leur être, de toute leur âme. Ils ont aimé l'Europe d'un amour total, mais d'un amour déçu. L'Europe ne les aimait pas. Il y a 70-80 ans, les seuls Européens en Europe étaient des gens comme mes grands-parents, mon grand-père, ma grand-mère. Tous les autres personnes sur ce continent étaient des patriotes français, des patriotes grecs, des patriotes ceci, cela. Les seuls vrais Européens, c'étaient mes grands-parents.
הם לא אהבו ארץ אירופאית אחת במיוחד.
Ils n'aimaient pas un pays spécialement de l'Europe.
Ils aimaient toute l'Europe.
Ils aimaient l'Europe entière.
הם אהבו את הספרות, והם אהבו את התרבות, והם אהבו את ההיסטוריה, והם אהבו את הארכיטקטורה.
Ils aimaient la littérature, l'histoire, tout, l'architecture européenne.
הם אהבו את האומנות, ואת המוזיקה, עד כדי דמעות הם אהבו את המוזיקה.
Ils aimaient la musique, ils aimaient la musique jusqu'à en avoir les larmes aux yeux.
אירופה לא החזירה להם אהבה.
Mais l'Europe ne leur a pas retourné cet amour.
היא קראה להם קוסמופוליטים, פרזיטים ואינטלקטואלים חסרי שורשים.
Elle les a appelés cosmopolites, parasites, sans racines.
הפג'ורטיבים האלה היו משותפים, אגב, לשפה הנאצית ולשפה הקומוניסטית.
C'était des termes péjoratifs qui étaient communs à la langue nazie et à la langue communiste.
הוריי באו לירושלים וניסו לבנות אירופה קטנה באמצע ירושלים.
Mes parents sont venus à Jérusalem et ils ont tenté de construire une petite Europe à Jérusalem. Nous habitions dans un appartement en rez-de-chaussée qui était aussi petit, cet appartement, qu'un sous-marin. Mais ce petit sous-marin était rempli de livres en 16 ou 17 langues. Mes deux parents étaient polyglottes.
הם היו מדברים ביניהם רוסית ופולנית כדי שאני לא אבין.
Entre eux, ils parlaient le russe et le polonais pour que je ne comprenne pas.
90% מהזמן הם רצו שאני לא אבין מה שהם מדברים, לא מפני שהם דיברו על סקס, אלא מפני שהם דיברו על קטסטרופות.
Et 90% du temps, ils souhaitaient que je ne comprenne pas, non pas parce qu'ils parlaient de sexe, mais parce qu'ils parlaient de catastrophes.
אז הם דיברו רוסית ופולנית, הם קראו ספרים בגרמנית, צרפתית ואנגלית.
Ils parlaient le russe et le polonais, ils lisaient en allemand, en français, en polonais. Ils rêvaient leur rêve, probablement en yiddish. Mais moi, ils ne m'ont enseigné que l'hébreu. Ils ne voulaient pas que je connaisse une seule langue européenne. Non pas pour des raisons de chauvinisme, mais pour des raisons sécuritaires. Ils pensaient que si je ne savais qu'une seule langue européenne, je serais attiré par la magie de l'Europe. Je partirais vers l'Europe et là, je serais tué. Et ainsi, les premiers mots que j'ai appris à prononcer dans une langue européenne, c'était ces mots anglais, « British go
home ».
C'est ce que les enfants de Jérusalem criaient sur les patrouilles britanniques pendant l'intifada originelle. L'intifada originelle, c'est-à-dire l'époque du mandat britannique. Ma famille était installée à Jérusalem et avait la nostalgie de l'Europe. Elle avait la nostalgie de l'Europe, mais elle en avait peur. Elle aimait l'Europe et elle était en colère contre l'Europe.
המשפחה שלי לא היו האנשים שטבעו עם הטיטניק של אירופה בשנות ה-40.
Mes parents ne faisaient pas partie des gens qui ont coulé avec le Titanic dans les années 40.
לא, הם היו אנשים שזרקו אותם מן הסיפון של הטיטניק בשנות ה-30.
En fait, ce sont des gens qui ont été jetés par-dessus le pont du Titanic dans les années 30.
בזמן שכל הסיפונים עדיין היו שטופים אורות ועל כל הסיפונים רקדו ואכלו ושרו.
Alors que les ponts étaient illuminés et que sur tous les ponts, on chantait, on dansait, on buvait. Eux, on les a jetés dans l'océan. Ils n'ont jamais surmonté ce traumatisme. Et ils m'ont légué cette ambivalence vis-à-vis de l'Europe. Mes parents me disaient toujours, un jour, Jérusalem va se développer et deviendra une vraie ville. Je ne comprenais pas ce qu'ils me disaient. Pour moi, Jérusalem, c'était la seule véritable ville.
Mais aujourd'hui, je comprends que quand ils ont dit que Jérusalem serait une ville,
En fait, j'ai compris ce qu'il disait, que lorsqu'il voulait dire que Jérusalem un jour serait une ville véritable, il pensait à une Jérusalem avec un fleuve qui la traverserait et des ponts par-dessus.
On l'entend dans vos mots, Amos Oz, l'autobiographie de votre famille vous fait tracer des ponts entre la tragédie et la comédie. Dans La Boîte Noire aussi, un de vos romans, Fima, est un équilibriste entre tragédie et comédie. Est-ce que c'est aussi ce regard-là que vous avez, à travers eux, vous avez appris l'art de la nuance? Eux parlaient d'une situation politique avec des mots en noir et blanc, ils évaluaient les choses en noir et blanc parfois. Vous, ils vous ont légué l'art de la nuance?
Chez mon père, ou pour mon père, la tragédie et la comédie, c'était deux planètes différentes. De ma mère, j'ai appris que la tragédie et la comédie n'étaient pas deux planètes, mais deux fenêtres simplement à travers lesquelles on voyait le même monde. Dans tout ce que j'ai écrit, j'ai tenté de faire disparaître la séparation entre tragédie et comédie. Je n'écris pas pour qu'un passage soit tragique et l'autre comique. J'écris pour que le passage soit à la fois et en même temps tragique et comique. Je vais vous donner un exemple tiré d'un de mes livres sur l'amour et
une histoire d'amour et de ténèbres.
Eh bien, en 1933, ma grand-mère arrive en Israël, en fait en Palestine à l'époque. Elle est vêtue d'une robe de soie et elle a un grand chapeau, un feutre avec une plume. Et alors à Jérusalem, il fait très très chaud. Elle voit le marché, le souk, elle voit les ânes, elle voit le marché. Elle voit les porteurs à moitié nus, luisants de sueur. Elle sent ces odeurs exotiques, elle entend ces sons extraordinaires. Et elle juge sur le champ, l'Orient est plein de microbes. Ça a été son slogan pendant toute sa vie à Jérusalem. Elle a eu tout le reste de sa vie, elle a mené une croisade contre les microbes. Je me souviens quand je me promenais à Jérusalem avec ma grand-mère Shlomit, eh bien les microbes s'enfuyaient de l'autre côté du trottoir. Elle ébouillantait tout. Elle ébouillantait les fruits, elle ébouillantait les légumes. Elle s'ébouillantait elle-même quasiment trois fois par jour. Tous les jours de sa vie, elle avait l'habitude de prendre trois bains brûlants par jour à Jérusalem. Et quand elle a atteint l'âge de 80 ans et même plus, son médecin lui a dit, Madame, c'est dangereux. Si vous poursuivez cette habitude de prendre trois bains brûlants par jour, je ne suis responsable de rien de ce qui pourrait vous arriver. Elle n'en a rien fait. Elle a continué parce qu'elle craignait plus les microbes que son médecin. Et donc, ma grand-mère est morte dans son bain. Comédie ou tragédie? dans son acte de décès, il est dit qu'elle est morte d'une crise cardiaque.
לי זה לא מספיק, אני חופר יותר עמוק.
Mais moi je vais plus profondément que ça.
אני אומר לכם שסבתא שלי מתה מניקיון.
Je peux vous assurer que ma grand-mère est morte à cause de la propreté.
גם זה לא מספיק לי.
Et ça ne me suffit pas.
מתחת לניקיון שלה עמד הפחד מפני הלבנט.
Sous sa propreté, il y avait sa peur du Levant, de l'Orient.
הזרות שלה לירושלים.
Son côté, son étrangeté vis-à-vis de Jérusalem.
הגעגועים שלה לאירופה.
Son côté étranger à Jérusalem. C'est sa nostalgie de l'Europe. Même ça, c'est pas suffisant.
גם זה לא מספיק לי. אני חופר יותר עמוק.
Eh bien, je vais encore plus profondément.
מתחת לפחד שלה מפני הלבנט, עמדה משיכה, כן, משיכה אירוטית אל הלבנט, אל הסבלים החצי ערומים בשוק.
En fait, derrière sa crainte du Levant, de l'Orient, il y avait en fait une attraction érotique pour ces porteurs à moitié nus du marché.
אז מה שהרג את סבתא שלי היה המשיכה שלה אל הלבנט, שהיא פחדה מפניה ולבשה את אהבת הניקיון שלה כמו חגורת צניעות מסביב לעצמה.
Et en fait, ma grand-mère est morte de l'attraction qu'elle avait pour l'Orient, et du fait que, pour se cacher à elle-même, probablement, cette attraction qu'elle avait pour le Levant, elle a revêtu cette ceinture de chasteté, de la propreté, et de la lutte contre les microbes.
אני הולך עוד צעד אחד. מה שהרג את סבתא שלי, זה הפחד שהיא פחדה, מפני המשיכה שהיא נמשכה אל הלבנט, פחד שגרם לה ללבוש את אהבת הניקיון כמו חגורת צניעות, לעשות שלוש אמבטיות רותחות ביום ולמות באמבטיה.
En fait, ce qui a tué ma grand-mère, c'est cette peur de l'attraction que l'Orient avait sur elle, et c'est ce qui l'a poussée à prendre ces trois bains brûlants par jour qui ont fini par la tuer.
ועוד צעד אחד, אולי אחרון בשבילי, יכול להיות שיש גם דברים יותר עמוקים.
Peut-être qu'il y a des choses encore plus profondes, mais je franchis encore une étape.
מה שהרג את סבתא שלי, זה הכעס שהיא כעסה על עצמה. בגלל הפחד שהיא פחדה, מפני המשיכה שהיא נמשכה, אל הלבנט המלא מיקרובים, משיכה שכדי לעצור אותה, היא עשתה שלוש אמבטיות רותחות, ומתה מהתקף לב באמבטיה.
En fait, ce qui l'a tué, c'est la peur qu'elle avait, de reconnaître l'attraction pour cet Orient qui, en fait, était plein de microbes et qui l'a poussé à prendre ses trois bains brûlants par jour.
Comédia ou tragédia?
Comédie ou tragédie?
Fantasia ou document?
Fantasme ou fait réel?
On l'aura compris, la grand-mère Shlomit est un des personnages hauts en couleur d'une histoire d'amour et de ténèbres. Vous lui redonnez naissance, notamment dans un de ses dictons, quand vous n'avez plus de larmes pour pleurer, riez plutôt, comédie ou tragédie. Vous, c'est là quasiment comme un de vos credos, Amos Oz, cette nécessité d'aller à rebours de la vie, du verdict de la vie par l'écriture, donner une seconde vie à votre grand-mère Shlomit et à d'autres, donner une seconde chance à vos personnages.
כשאני שואל את עצמי לפעמים בלילות למה אני כותב.
Quand je me pose la question parfois la nuit, pour quelle raison j'écris?
כמובן שהתשובה הראשונה היא אני לא יודע, אני מוכרח לכתוב.
La réponse évidente c'est je sais pas, je dois écrire.
והתשובה השנייה היא אני כותב כי אני רוצה לתת הזדמנות שנייה למה שכבר לא תהיה לו הזדמנות שנייה.
Et la deuxième réponse c'est que je veux donner une deuxième chance à ce qu'il ne pourra plus jamais avoir de deuxième chance.
Cette deuxième chance, c'est aussi une façon peut-être de dépasser la douleur. Dans un de vos essais, qui n'est pas encore traduit en français, mais qu'il sera bientôt, l'espérons, vous avez écrit donc, sur le silence du ciel dans l'œuvre d'Agnon. L'une des nouvelles d'Agnon est la récompense était à la hauteur de la douleur. La récompense d'écrire, le bonheur d'écrire, est souvent à la hauteur de la douleur évoqué Amos Oz.
קודם כל אני רוצה, כיוון שהזכרת את עגנון, להגיד שעגנון הוא אחד המנטורים הגדולים שלי.
Tout d'abord, je voudrais dire que vous avez cité Agnon et vous dire que Agnon est un de mes mentors.
אם אני יכול להגיד בשתי מילים מה למדתי מעגנון, שתי המילים האלה יהיו אירוניה ואמביוולנטיות.
Si je peux dire en deux mots ce que j'ai appris d'Agnon, ces deux mots sont ironie et ambivalence.
עכשיו את שואלת על הכאב וההנאה שבכתיבה. כמעט אי אפשר להפריד ביניהם.
Vous posez la question sur la douleur et le plaisir de l'écriture. On ne peut quasiment pas les séparer.
לאנשים שונים יש כל מיני אידאות רומנטיות על הכתיבה.
Les gens ont souvent des idées bizarres, des idées romantiques sur l'écriture.
אידאות סנטימנטליות על הכתיבה.
Des idées sentimentales sur l'écriture.
אידאות ליטרטיות על הכתיבה.
Des idées littéraires sur l'écriture.
העבודה של הכתיבה היא בחלק גדול מלאכה דקה.
En fait, le travail d'écriture est principalement un travail extrêmement long et précis.
מלאכה של רוקח שמצרף יחד ומערבב במינונים מדויקים סמים שונים.
En fait, presque un travail de pharmacien qui mélange avec des doses très précises des poisons différents.
או עבודה של שען מן הדור הישן שיושב עם זכוכית מגדלת בעין ופינצטה ביד ומכניס דברים זעירים לתוך המקום הנכון שלהם, גלגלים זעירים.
C'est peut-être aussi le travail d'un horloger d'autrefois qui, avec sa loupe vissée à l'œil et une pincette à la main, essaye d'introduire des éléments minuscules et essaye de les mettre en place.
אלה מכם שחולמים להיות סופרים או מקנאים בסופרים צריכים אולי לדעת.
Ceux d'entre vous qui rêvent ou qui sont jaloux ou aimeraient devenir écrivain doivent savoir
שרוב העבודה שלי היא לחפש מילה אחת שמתאימה לתוך המשפט כדי שהיא תהיה מילה נכונה במשפט.
Doivent savoir que mon travail consiste à trouver le mot exact qui rentrera pile poil dans la phrase.
רוב העבודה שלי היא לחפש את הפסיק שיהיה במקום הנכון ולא במקום הלא נכון.
Mon travail consiste à trouver l'endroit où introduire la virgule, que la virgule soit à l'endroit où elle doit être et pas à l'endroit où elle ne doit pas être. Je travaille dur pour que vous ne vous rendiez pas compte que j'ai travaillé dur. Qu'est-ce que c'est qu'un mot dans un roman? C'est comme une note dans une symphonie.
התו היחיד ישימו לב אליו רק אם הוא חורק, אם הוא בסדר לא ישימו לב לתו יחיד.
Si cette note est une fausse note, évidemment on va s'en rendre compte. Mais si la note est juste, personne ne s'en rend compte.
אני מחפש את המילה שאתם אפילו לא תשימו לב אליה.
Je cherche le mot que vous ne remarquerez même pas.
תענוג או כאב.
Plaisir, douleur.
Vous avez mentionné Agnon comme mentor, il l'est à divers titres. Vous écrivez dans une histoire d'amour et de ténèbres, j'ai eu beau faire, les leçons d'Agnon se retrouvent évidemment dans mes livres, mais qu'ai-je réellement appris ? Peut-être ceci, à ne projeter qu'une ombre. Est-ce que cette façon de projeter une ombre, c'est aussi une façon de laisser une liberté à vos personnages ? Trouver le mot juste qui passera inaperçu ? Pour pouvoir laisser vivre les personnages hors de vous, comme par exemple dans Vie et mort en quatre strophes qui vient de paraître chez
Gallimard.
Quand j'étais enfant, mes parents m'ont amené plusieurs fois devant la maison d'Agnon.
ואני זוכר את הבית שלו כמוצאי שבת, תמיד בית חשוך קצת, מפני שהוא היה אדם דתי ולא הדליק את החשמל עד הערב.
Et je me souviens que le soir, à Motsei Shabbat, c'est-à-dire avant la sortie du Shabbat, sa maison était toujours sombre parce que c'était un homme religieux, pratiquant, et qu'il n'allumait jamais la lumière avant la sortie du Shabbat, la fin du Shabbat.
כשאגנון קם מן המקום והלך להוציא ספר מן המדף,
Lorsque Agnon se levait et allait chercher un livre sur une étagère, en fait, il projetait sur les murs non pas une ombre, mais trois ou quatre.
כך אני זוכר אותו, האיש עם שלושה או ארבעה צללים.
C'est ainsi que je me le rappelle, un homme avec trois ou quatre ombres.
זה מה שעושה בעיניי כל יצירה גדולה, מפילה שלושה או ארבעה צללים ולא רק צל אחד.
À mon avis, c'est ce que fait chaque grande œuvre. Elle projette non pas une, mais trois ou quatre ombres.
האם גם הספרים שלי מפילים יותר מאשר צל אחד, זה לא בשבילי לשפוט, זה בשביל קוראי.
En fait, est-ce que mes livres projettent plus du nombre? Ce n'est pas à moi de le dire, mais à mes lecteurs.
Dans L'amour soudain, Aaron Appelfeld met dans la bouche de l'un de ses personnages, son absence ne fait qu'accentuer sa présence. À la synagogue, on se souvient non seulement de grand-père, mais aussi du père de son père. À l'évocation du nom de son père, on rappelle cette maxime. Ne pense pas qu'en abattant l'arbre, on fait disparaître l'ombre. Vous écrivez pour projeter des ombres, mais est-ce que vous écrivez aussi pour donner forme aux ombres, Amos Oz?
Lorsqu'on coupe un arbre, son ombre ne disparaît pas. Car en fait, rien ne disparaît.
דיברנו בהתחלת השיחה הזאת על הזיכרון.
Nous avons parlé au début de cette conversation du souvenir, de la mémoire.
יש דברים ששוקעים כל כך עמוק עד שגם הזיכרון לא יכול להעלות אותם, אבל הם לא הולכים לאיבוד.
Il y a des choses qui plongent aussi profondément que même la mémoire ne s'en souvient pas, mais ces choses ne disparaissent pas.
הם נשארים בזיכרון העמוק ולפעמים חוזרים בחלומות.
Elles restent dans la mémoire profonde, ces choses, et parfois elles reviennent dans les rêves.
דוד גרוסמן דיבר פה קודם על העיירה של אביו שהוא לא ראה אותה אף פעם אחת.
דוד גרוסמן a parlé ici précédemment du village de son père qu'il n'a jamais vu.
הוא הגיע אליה דרך כתבי שלום עליכם.
Il y est parvenu grâce aux livres, aux écrits de Shalom Aleichem.
הנה אפילו הזיכרון שאיננו שלו הופך להיות זיכרון שלו.
Et donc une mémoire ou un souvenir qui ne lui appartient pas devient son souvenir, sa mémoire.
העץ שכבר איננו מטיל צללים ביצירות של דוד גרוסמן.
Eh bien, l'arbre qui a été coupé projette des ombres dans les écrits de David Grossman.
אני חושב שזה גם בעבודות שלי.
Je crois que c'est la même chose dans mes œuvres.
Alors, le seul qui n'a pas d'ombre, on le sait bien, c'est le diable. Le diable, vous le soulignez dans votre discours pour le prix Goethe que vous avez reçu il y a 15 ans. Semble avoir été congédié pourtant de nos êtres singuliers. Je vous cite, le Faust de Goethe nous rappelle une fois pour toutes que le diable est personnel et non impersonnel, que le diable met chaque individu à l'épreuve. Le bien et le mal individuel ne sont le patrimoine d'aucune religion, ce ne sont pas nécessairement des termes religieux. Infliger ou non de la souffrance, la regarder en face ou détourner la vue, s'impliquer personnellement pour la soulager comme le ferait un médecin de campagne dévoué, ou se contenter d'organiser des manifestations de colère et signer des pétitions en bloc. Chacun de nous est confronté plusieurs fois par jour à cette palette de choix. À en croire les discours en vogue, le mal est un conglomérat. Les systèmes sont le mal, les États sont mauvais, des institutions dirigent le monde pour leur plus sombre profit. Satan n'est plus dans les détails. Vous et moi sommes des gens très bien. Le diable, c'est toujours l'establishment. À mon sens, on est en plein kitsch éthique. Pour vous, écrire, c'est aussi apprendre à traquer les ombres, mais aussi à voir le diable à l'intérieur de soi.
כן, קודם כל הדברים שאת קראת ממה שאמרתי בנאום פרס גתה, אני עדיין מסכים עם עצמי.
Eh bien, ce que vous avez cité de ce que j'ai dit lorsque j'ai reçu le prix Goethe, je dois dire que je suis encore d'accord avec moi-même.
צריך להסתכל לרוע בעיניים.
Il faut regarder le mal dans les yeux.
אני חושב שחלק מן העבודה המוסרית, חלק מן החובה המוסרית, זה להסתכל לרוע בעיניים.
Je crois qu'une partie de ce travail moral que nous faisons, c'est de regarder le mal dans les yeux.
לא לרוע של אחרים, אלא לרוע שלי.
Non pas le mal des autres, mais le mal que nous avons nous en nous.
לא רק לרוע של הפלסטינאים, אלא גם לרוע של ישראל.
Pas seulement le mal des Palestiniens, mais le mal des Israéliens.
לא רק לרוע של הממשלה הישראלית, אלא גם לרוע של האדם ברחוב.
Pas simplement le mal du gouvernement israélien, mais le mal du tout venant.
לא רק לרוע של האדם ברחוב, אלא גם לרוע שלי שמסתכל באדם ברחוב.
Pas seulement le mal de l'homme de la rue, mais le mal qu'il y a en moi qui regarde passer l'homme de la rue.
On
ne peut pas tuer le mal ou aimer le mal qui est en nous. On ne peut pas éliminer le mal qui est en nous. Le seul conseil que je puisse donner, c'est de le regarder sans cesse au fond des yeux. Comme les chats, le mal n'aime pas qu'on le regarde au fond des yeux.
Le mal qu'on regarde au fond des yeux, on le regarde aussi dans des communautés réduites apparemment, des cercles restreints qui reflètent plus vastement le monde. Dans une histoire d'amour et de ténèbres, vous soulignez, vous parlez de cette expérience du kibboutz et vous témoignez de cette révolution copernicienne provoquée notamment par l'écrivain Sherwood Anderson qui vous donne à comprendre combien votre microcosme est un macrocosme. Et pour avoir le son de cette révélation, on va faire une petite pause dans notre dialogue, donner la parole à votre texte.
Je commençais à désespérer, car pour écrire comme Remarque ou Hemingway, il fallait parcourir le monde, là où les hommes étaient virils comme le poing et les femmes tendres comme la nuit, où les ponts enjambaient de larges fleuves et où les cabarets étincelaient de mille feux le soir, là où l'on vivait pour de vrai. Qui n'avait pas l'expérience du monde ne pouvait prétendre obtenir la moitié d'une licence provisoire d'écriture. La place d'un authentique écrivain n'était pas ici, mais là-bas, dans le vaste monde, et tant que je ne vivrais pas dans cet ailleurs réel, je ne pouvais rien écrire. Un ailleurs réel, Paris, Madrid, New York, Monte Carlo, les déserts africains ou les forêts scandinaves. À la rigueur, on pouvait écrire sur une ville en province russe pittoresque ou sur les shtetl juifs en Galicie. Mais ici, au kibboutz, où il n'y avait en tout et pour tout qu'un poulailler, une étable, des maisons d'enfants, des comités, des permanences, un magasin d'articles de consommation courante, des hommes et des femmes exténués qui se levaient à l'aube, travaillaient, discouraient, se douchaient, buvaient du thé, lisaient un peu le soir dans leur lit avant de s'écrouler avant 10 heures. Même à Kerem Avraham, je ne voyais rien qui vaille la peine d'être raconté. Il n'y avait là que des gens ternes qui menaient une existence grise, minable. Comme à Oulda, j'avais même raté la guerre d'indépendance. J'étais né trop tard et je n'avais récolté que les miettes. Remplir des sacs de sable, ramasser les bouteilles vides, courir porter des messages au QG de la défense civile au poste d'observation sur le toit des Slonimski et vice-versa. Avait-on jamais bu du cognac à Oulda ? Ou entendu parler des femmes provocantes et de sublimes amours. Pour écrire comme ces gens-là, je devais d'abord partir à Londres ou à Milan. Mais comment ? De simples kibboutznits ne s'en allaient pas comme ça chercher l'inspiration à Londres ou à Milan. Si je voulais avoir une chance de me rendre à Paris ou à Rome, je devais d'abord être connu, donc écrire un best-seller, comme l'un de ses auteurs. Mais pour pouvoir écrire, je devais d'abord aller vivre à Londres ou à New York. C'était un cercle vicieux. C'est Sherwood Anderson qui m'aida à sortir de ce cercle infernal en libérant mes velléités d'écriture. Je lui en serai éternellement reconnaissant. En septembre 1959, les éditions Ham Oved publièrent Winnesburg en Ohio, traduit par Aaron Amir. Avant de le lire, je ne soupçonnais même pas l'existence de Winnesburg et n'avais jamais non plus entendu parler de l'Ohio, sauf peut-être les vagues souvenirs qui me restaient de Tom Sawyer et Huckleberry Finn. Ce petit livre m'émut jusqu'au tréfonds. Par une nuit d'été, j'arpentais les allées du kibboutz jusqu'à 3h30 du matin, ivre, parlant tout seul, tremblant comme un amoureux transi, chantant et gambadant, pleurant d'émotion, de joie et d'extase. Eureka ! À 3h30 du matin, j'enfilais ma salopette et mes godillots et fonçais à la remise, d'où l'on partait en tracteur désherber les champs de coton, en un lieu appelé Mansoura. Brandissant une houe, je galopais entre les rangées de coton devant tout le monde, comme si j'avais des ailes, euphorique, bondissant et sarclant et mégosillant, bondissant et sarclant et discourant pour moi-même, les collines et le vent, sarclant avec des serments plein la bouche, bondissant, surexcité, en larmes. Winnesburg en Ohio est un recueil de nouvelles imbriquées les unes dans les autres, dont l'action se déroule dans une modeste ville de province pauvre, oubliée de Dieu. Le livre est peuplé de petites gens, un vieux menuisier, un jeune homme ahuri, un certain propriétaire d'hôtel et une domestique. Autre point commun, les protagonistes passent d'une histoire à l'autre, les personnages principaux de l'une réapparaissent au second plan dans une autre. Les récits de Vinsburg en Ohio s'articulent autour de banals incidents quotidiens fondés sur des ragots et des chimères. Un vieux menuisier, un vieil écrivain parlant de surélever un lit, tandis qu'un jeune homme rêveur du nom de Georges Villard, un jeune reporter dans la feuille de chou locale, les... Excusez-moi.
Il y a eu un mélange entre l'édition poche et l'édition grand format, donc voilà.
Donc, excusez-moi, je reprends. Je m'assure de ne pas vous refaire le même coup un peu plus tard. Donc les récits de Vinsburg en Ohio s'articulent autour de banals incidents quotidiens fondés sur des ragots et des chimères. Un vieux menuisier, un vieil écrivain parlant de surélever un lit, tandis qu'un jeune homme rêveur du nom de Georges Villard, un jeune reporter dans la feuille de chou locale, les écoute en pensant à autre chose. Et il y a Biddlebaum, un vieil original surnommé Wing Biddlebaum, et une grande fabrune qui épouse on ne sait pourquoi un certain docteur Riffy et meurt un an plus tard. Abner Groff, le boulanger, et le docteur Parcival, un homme corpulent, aux lèvres tombantes, couvertes de moustaches jaunes. Il portait toujours un gilet blanc sale, dans les poches, laissait sortir un certain nombre de ses cigares noirs appelés Stoggies. Et d'autres quidam, du même tonneau, qui, à mon avis, jusqu'à cette nuit du moins, n'avaient rien à faire dans la littérature, sauf peut-être comme personnage secondaire suscitant tout au plus chez le lecteur quelques minutes de moquerie et de pitié. Et là, dans Vinsburg, en Ohio, des événements et des individus qui, j'en avais la certitude, étaient dits indignes de la littérature, au-delà du seuil de tolérance, occupaient le devant de la scène. Les femmes, chez Sherwood Anderson, n'étaient pas provocantes, séductrices ou énigmatiques, et les hommes n'étaient pas vigoureux, pensifs, taciturnes, environnés de fumée de tabac ou plongés dans une virile mélancolie. Les nouvelles de Sherwood Anderson me rendirent ce que j'avais abandonné en quittant Jérusalem, ou plutôt la terre que j'avais foulée dans mon enfance, sans jamais me donner la peine de me baisser pour la toucher. La vie étriquée de mes parents, la légère odeur de colle, de pâte et de hareng sort qui flottait perpétuellement autour de croque-mâle, les réparateurs de poupées et de jouets cassés, l'appartement marron et sombre de maîtresse Zelda avec le buffet en contreplaqué écaillé, M. Zarki, l'écrivain qui était malade du cœur et dont la femme souffrait de constantes migraines, la cuisine noire de suie de certains Abramski et les deux oiseaux de Stadsek et Malarudniki que Stadsek et Malarudniki gardaient en cage, le vieux chauve et son compagnon en pomme de pin. La maison pleine de chats de maîtresse Isabella Nakalieli et son mari Getzel, le caissier bouche bée de la coopérative. Stack, le vieux chien de chiffon de grand-mère Schlomit, avec ses yeux tristes en boutons de bottine qu'on gavait de naphtaline à cause des mythes et battait sans pitié pour le débarrasser de la poussière, jusqu'au jour où, n'en pouvant plus, on le jeta à la poubelle, enveloppé dans du papier journal. Je comprenais enfin d'où je venais. D'un morne écheveau de chagrin et de faux-semblants, de nostalgie, d'absurde, de misère et de suffisance provinciale, d'éducation sentimentale et d'idéaux anachroniques, de peur rentrée, de résignation et de désespoir. Un désespoir du genre acerbe, domestique, où de minables imposteurs se prenaient pour de dangereux terroristes et d'héroïques défenseurs de la liberté, où des relieurs malheureux inventaient des formules pour le salut universel, des dentistes parlaient en confidence à leurs voisins de leur correspondance suivie avec Staline, des professeurs de piano, des jardinières d'enfants et des ménagères se tournaient et se retournaient la nuit dans leur lit, pleurant la perte d'une vie artistique, palpitante d'émotions. Des lecteurs s'acharnaient à envoyer des lettres de protestation à la rédaction du Davar. De vieux boulangers voyaient en rêve Maïmonide et le Baal Shem Tov. Des apparatchiks du syndicat, crispés et imbus de soie, gardaient leurs voisins à l'œil. Et des caissiers de cinéma ou de coopératives composaient la nuit des poèmes et des pamphlets. Vinsburg en Ohio me révéla le monde de Tchekhov bien avant que j'en apprenne l'existence. Il n'était plus question de Dostoïevski, Kafka, Knut Hamsun, Hemingway ou Yigal Mosenson. Plus de femmes mystérieuses sous des ponts ou d'hommes au col relevé dans des bars remplis de fumée. Ce livre me fit l'effet d'une révolution de Copernic inversée. Alors que contrairement à la croyance de l'époque, Copernic avait découvert que notre monde n'était pas le centre de l'univers, mais l'une des planètes du système solaire, Sherwood Anderson m'ouvrit les yeux et me poussa à écrire sur ce qui m'entourait. Grâce à lui, je compris brusquement que le monde de l'écrit ne tournait pas autour de Milan ou de Londres, mais autour de la main qui écrivait, là où elle était, le centre de l'univers et là où vous vous trouvez. Je jetais donc mon dévolu sur une table d'angle dans la salle d'études déserte au kibboutz et chaque soir, j'ouvrais un cahier d'écolier marron était inscrit brouillon et 40 pages. Je posais à côté un stylo de la marque Globus, un crayon gomme gravé du nom de la centrale d'achat et un gobelet en plastique beige rempli d'eau du robinet. C'était le centre du monde.
Dans son discours de réception du prix Nobel en décembre 2006, Orhan Pamuk évoque ce désir d'être au centre du monde et la douleur de croire n'y être pas. Il parlait d'Istanbul et la souffrance de son père de ne pas être européen, de ne pas être parisien. Le fils est devenu qui l'on sait. Est-ce que pour vous aussi, Amos Oz, la littérature est une façon de donner à son propre centre les dimensions de l'univers, de faire d'un univers son centre?
הספרות היא תמיד פרובינציאלית, בלי יוצא מן הכלל. על כל פנים, אם היא ספרות טובה, היא תמיד פרובינציאלית.
La littérature est toujours provinciale. En tout cas, si c'est de la bonne littérature, elle est toujours provinciale.
יש ספרים שמנסים להיות אינטרנציונליים.
Il y a des livres qui tentent d'être internationaux.
אלה הם הספרים שאנשים קונים וקוראים אותם במלונות בינלאומיים.
En fait, ce sont les livres que les gens achètent pour les lire dans les hôtels internationaux. Ce sont les livres que les gens oublient sur les chaises dans les hôtels internationaux. Mais tous les livres qui me sont importants à mes yeux, sont des livres provinciaux. La lecture d'un roman, c'est le voyage le plus merveilleux qui soit. Si j'achète un billet et que je pars à Colombia pour un mois, je regarderai, je verrai le paysage, les bâtiments, les musées. Si j'ai un peu de chance, je serai quelques instants assis dans un café et échangerai quelques mots avec les gens du lieu. Je rentrerai à la maison avec un appareil photo plein de clichés. Mais si je suis chez moi et que je lis un livre de Garcia Marquez, il m'emmène à des endroits où aucun touriste au monde n'arrivera jamais. Il m'amène dans la cuisine des Colombiens, dans les chambres d'enfants et même dans les chambres à coucher des Colombiens. Il n'y a aucun voyage au monde semblable à la lecture d'un roman. Et un roman, c'est toujours provincial.
Vous décrivez la Jérusalem des années 40-50 et la souffrance de vos parents d'être provinciaux sans savoir qu'ils allaient devenir des personnages de romans, de ces romans qui doivent être provinciaux. Ce qui semblait être à la périphérie est aujourd'hui devenu le centre d'attention du monde entier. Écrire dans des temps troublés, écrire depuis Israël, c'est savoir aussi combien vous êtes l'objet de toutes les attentions. Et combien les messages peuvent être les livres sont confisqués par des idées préconçues.
C'est difficile d'écrire en Israël, pas parce qu'on est le centre d'attention. Et pas parce que les gens ont des idées préconçues. Les idées préconçues, il y en a absolument partout. C'est difficile parce que lorsque j'écris une nouvelle en roman, j'ai parfois un peu honte.
יש תמיד איזה קול שני שאומר לי, אתה לא מתבייש לכתוב עכשיו רומן, לשים את זכוכית המגדלת בעין, לקחת את הפינצטה ביד ולשים כל מילה במקום, בזמן שעשרה קילומטר מביתך נהרגים אנשים.
Il y a toujours une voix, une autre voix qui me dit, mais t'as pas la honte de te mettre cette loupe dans l'œil, de prendre tes pincettes et de mettre en place des petits mots comme ça, alors qu'à 10 kilomètres du lieu où tu es, il y a des gens qui sont tués.
C'est caché. מצד שני, כשאני יושב וכותב מאמר בעיתון.
Et d'un autre côté, lorsque je suis à ma table et que j'écris un article pour un journal.
ואני כותב לממשלה, ממשלה יקרה, לכי לעזאזל.
Et que j'écris une lettre au gouvernement, cher gouvernement, va te faire voir.
אני גם כן מתבייש.
J'ai honte aussi.
מפני שאני אומר לעצמי, הנה אתה אומר סיסמאות, הנה אתה אומר דברים שאינם מדויקים, הנה אתה משתמש בשפה של העיתון.
Voilà. Je me dis, t'as pas honte, tu utilises toi aussi des slogans, tu utilises des mots qui ne sont pas exacts. Tu... Vraiment. Ça m'est difficile comme ci et ça m'est difficile comme ça. Mais je suis un homme de compromis, je fais des compromis.
אני כותב בבוקר את הרומנים שלי ואחרי הצהריים את המאמרים שאומרים לממשלה ללכת לעזאזל.
Eh bien, le matin, j'écris des romans. Et l'après-midi, j'écris des articles qui disent au gouvernement d'aller se faire voir.
בכלל, אם דיברנו על פשרות, אני רוצה להגיד כאן משפט או שניים על רעיון הפשרה.
Puisqu'on parle de compromis, je voudrais dire ici une ou deux phrases en ce qui concerne le compromis.
לפשרה יש שם רע מאוד, בעיקר באוזניהם של אנשים צעירים ואידיאליסטים.
Le compromis, ça a très mauvaise presse chez les jeunes, chez les idéalistes. Les gens confondent compromis avec opportunisme. Les gens pensent qu'un compromis, c'est un manque d'honnêteté. Les gens pensent que compromis, c'est un manque d'intégrité.
בעיניי המילה פשרה היא מילה נרדפת למילה חיים.
Pour moi, le mot compromis, c'est un mot qui est très proche du mot vie.
איפה שיש חיים יש פשרות.
Là où il y a de la vie, il y a compromis.
פשרה, אני לא מתכוון להושיט את הלחי השנייה כמו שהציע ישו הנוצרי.
Compromis, ça ne signifie pas tendre l'autre joue comme l'a suggéré Jésus le chrétien.
פשרה זה לנסות לפגוש את השני בחצי הדרך.
Le compromis, c'est de rencontrer l'autre à mi-chemin.
וההפך מפשרה זה לא אידיאליזם.
Le contraire de compromis, ce n'est pas idéalisme.
ההפך מפשרה זה פנאטיות ומוות.
Le contraire de compromis, c'est fanatisme et mort.
תאמינו לי, אני יודע שניים, שלושה דברים על פשרות, אני נשוי לאותה אישה 48 שנים.
Écoutez, je sais de quoi je parle quand je parle de compromis. Je suis marié à la même épouse depuis 48 ans.
Qu'on remercie d'être là aussi parmi nous ce soir. Quand je parlais de cette difficulté d'écrire en Israël et cette façon d'avoir ces livres confisqués par des lectures un peu orientées, je pensais à ce que vous appelez les mauvais lecteurs, les gens qui utilisent les livres pour essayer de trouver du matériel biographique sur les auteurs, ou qui voit dans un de vos personnages une sorte d'incarnation éternelle de l'identité israélienne. Est-ce que c'est cette position-là, cette façon de sentir que la littérature peut être détournée de son lit, qui vous a rendu d'autant plus conscient de cette catégorie des mauvais lecteurs et qui, dans une histoire d'amour et de ténèbres, nous donne aussi une leçon de lecture ? Nous tous, Association Universelle des Mauvais Lecteurs.
תראו, אני חושב שהקורא הרע זה הקורא שעושה בנליזציה של מה שהוא קורא.
Je pense en fait que le mauvais lecteur, c'est celui qui banalise ce qu'il lit.
הקורא הרע זה קורא שהופך כל דבר או לרכילות או לפמפלט.
Le mauvais lecteur, c'est quelqu'un qui transforme ce qu'il lit en pamphlet ou en... En médisance. Merci beaucoup, public, chérie.
Médisance, merci. Et קורא הרע, קורא רק מה שהוא כבר מכיר. הוא לא מוצא שום דבר חדש בספר, הוא מוצא רק מה שהוא כבר יודע.
Le mauvais lecteur ne trouve rien de neuf dans ce qu'il lit. Il n'y trouve que ce qu'il connaît déjà.
ויש כמובן בישראל הרבה קוראים רעים.
Et évidemment, en Israël, il y a beaucoup de mauvais lecteurs.
אתה כותב סיפור קצר, נגיד, על אבא, אמא, בת ודמי כיס, pocket money.
Par exemple, on écrit une nouvelle courte sur un père, une mère, un enfant et l'argent de poche.
הקורא הרע מיד יגיד שהאבא זה הממשלה והאמא זה היהדות, הילד זה הדור הצעיר והכסף הכיס זה הכלכלה הצולעת.
Eh bien, le mauvais lecteur dira tout de suite que le père, c'est le gouvernement, la mère, c'est quelque chose d'autre, l'enfant, c'est la nouvelle génération, et l'argent, c'est l'économie défaillante. Le bon lecteur, c'est celui qui se cherche lui-même dans le livre. C'est celui qui amène son moi intérieur à la rencontre de l'écrit.
הקורא הטוב קורא את החטא ועונשו של דוסטויבסקי ושואל את עצמו האם גם אני יכולתי להיות רסקולניקוב, האם גם אני קצת רסקולניקוב.
Le bon lecteur c'est celui qui lit Crime et châtiment de Dostoïevski qui se demande est-ce que moi aussi j'aurais pu être Raskolnikov.
הקורא הטוב קורא את דון קישוט ומביא את דון קישוט לפגישה עם הדון קישוט הפנימי שלו.
Le bon lecteur, c'est celui qui lit Don Quichotte et qui amène Don Quichotte à rencontrer son moi. Et le mauvais lecteur lit Lolita de Nabokov et se pose la question de savoir si Nabokov était pédophile.
Alors, écrire dans les temps troublés, c'est aussi une façon de porter témoignage tout de même, même malgré le risque de ces mauvais lecteurs. Est-ce que c'est ainsi, Amos Oz, que s'est imposé en vous le genre du reportage littéraire? C'est une tradition qui nous ramène à quelqu'un qu'on aime, enfin, que vous aimez, Tchekhov, avec ses reportages dans l'île Sakhaline. Vous écrivez dans une histoire d'amour et ténèbres, les faits sont parfois l'ennemi de la vérité. À propos de votre grand-mère Shlomit, ces reportages, pour vous, étaient-ils, notamment dans les voies d'Israël, une façon d'aller au-delà des faits pour essayer de trouver une vérité?
אני במשך 40 השנים, 45 שנים שאני כותב.
Eh bien, au cours des 45 années que j'écris.
תיקון, 45 שנים שאני מפרסם, כי אני כותב מאז שהייתי ילד קטן.
Pardon, correction. 45 années que je publie, parce que j'ai écrit depuis que j'étais jeune, petit enfant.
במשך 45 השנים שאני מפרסם, ניסיתי כלי נגינה שונים מאוד.
Eh bien, depuis ces 45 ans que je publie, j'ai essayé tout un tas d'instruments différents.
כתבתי רפורטז'ות, כתבתי מאמרים בעיתון.
J'ai écrit des reportages, j'ai écrit des articles dans les journaux.
כתבתי רומנים, כתבתי סיפורים.
J'ai écrit des romans, j'ai écrit des nouvelles.
כתבתי ספר שהוא כמעט שירה.
J'ai écrit un livre qui est presque de la poésie.
וכתבתי עוד. אבל בכל מה שכתבתי, אני מנסה להגיע תמיד אל הקורא הטוב, אני מנסה להגיע תמיד אל אותו קורא שאוזנו מכוונת אל כלי הנגינה שבו אני מנגן באותו זמן.
Mais en fait, pendant toute mon écriture, j'essaie d'arriver à ce bon lecteur, celui qui va avoir l'oreille tendue et qui entendra l'instrument que j'utilise. Il ne faut pas qu'il lise un roman comme si c'était un reportage. Et il ne faut pas qu'il lise un poème comme si c'était un manifeste. Je suis heureux de pouvoir dire que je trouve beaucoup de lecteurs comme cela.
וכל קורא שאני מוצא אותו או שהוא מוצא אותי זה בשבילי חגיגה קטנה.
Et chaque lecteur que je trouve ou tout lecteur qui me trouve, c'est pour moi une petite fête.
זה כמובן קשה במיוחד בחברה שחיה כל הזמן על קצות העצבים שלה.
C'est bien sûr difficile dans une société qui vit toujours au bord de la crise de nerfs.
חברה עצבנית, חברה לא שקטה.
Une société nerveuse, une société qui n'a pas de sérénité.
אני נוסע לעתים קרובות בטקסי בתל אביב.
Je voyage souvent en taxi à Tel Aviv.
קורה לא פעם שנהגי הטקסי מכירים אותי כי הם ראו אותי בטלוויזיה.
Il arrive souvent que les chauffeurs de taxi me reconnaissent parce qu'ils m'ont vu à la télé.
ואז הם מתחלקים תמיד לשתי מפלגות.
Et là, il y a deux groupes.
מפלגה אחת אומרת לי תמיד, אתה סופר גדול, למה לך להתעסק בפוליטיקה, עזוב את הדברים הפוליטיים, תכתוב לנו רומנים.
Et là, une partie me dit, mais écoute, pourquoi tu te casses les pieds à faire de la politique? Tu es un excellent romancier, écris des romans, voilà, il laisse tomber la politique.
המפלגה השנייה אומרת לי, עכשיו זמנים כל כך קשים, עזוב את הרומנים, אתה צריך להיכנס לפוליטיקה.
Et l'autre partie me dit, mais écoute, laisse tomber l'écriture, laisse tomber la littérature, les temps sont durs là, il faut que tu rentres en politique.
זה חברה שחיה על קצות העצבים שלה.
C'est ça une société qui vit au bord de la crise de nerfs.
אני בדרך כלל מנסה, כדי להרגיע קצת את קצות העצבים האלה, בדרך כלל אני מנסה לדבר בשקט.
Et en général, pour calmer ces gens qui sont au bord de la crise de nerfs, j'essaie de leur parler tranquillement.
אפילו כשאני אומר לממשלה ללכת לעזאזל, אני אומר את זה בשקט.
Même lorsque je dis au gouvernement d'aller se faire voir, je le fais tranquillement.
לא בלחש, אבל בשקט.
Je chuchote pas, mais tranquillement.
Grâce soit rendue aux chauffeurs de taxi israéliens quand même. Je pense qu'il y a véritablement là un personnage littéraire en soi à qui il faudrait consacrer un essai, enfin vraiment. Je voudrais à présent rendre hommage à une femme qui aurait dû être avec nous si une maladie ne nous en avait pas privés. C'est un privilège que de rappeler le nom des absents et je voudrais évoquer ce soir la mémoire de Batya Gour. La romancière n'a pas seulement arpenté Israël contemporain avec ses enquêtes du commissaire Ohana, elle nous a aussi donné un très beau recueil de textes paru chez Gallimard qui s'appelait Jérusalem, une leçon d'humilité. Et dans ces pages, on comprend que Jérusalem invite à ne pas croire qu'on sait ou à penser que les convictions vacillent et doivent vaciller. Est-ce que vous sentez aussi, Amos Oz, que vivre en Israël, c'est une invitation à l'humilité ?
קשה לי לענות על השאלה הזאת. אינני יודע אם לחיות בארץ נותן לי איזה זכויות מיוחדות.
C'est difficile de répondre à cette question parce que je ne sais pas si vivre en Israël me donne un droit quelconque.
יש לי חובות אזרח.
J'ai des devoirs en tant que citoyen.
וקודם כל החובה להיות נגד העוול.
Et tout d'abord le devoir d'être contre la le deuil ou la l'injustice, pardon.
L'injustice, החובה להיות נגד העוול. זכויות מיוחדות שנקנות לי בתוקף היותי בארץ, אני לא מכיר.
Je ne connais aucun droit spécifique qui m'est dû parce que je vis en Israël.
C'était absolument, enfin, c'était loin d'être un droit, c'est une invitation justement à chercher le vacillement, une invitation qui en tant que romancier est aussi une sorte d'affluent. Pas avoir de certitude, mais de chercher le vacillement aussi bien en soi qu'en l'autre.
אם אני מבין נכון את השאלה האחרונה, ואני לא בטוח שאני מבין אותה, הרי את מדברת על החשיבות של הספק.
En fait, je ne sais pas si je comprends bien la question, mais si je la comprends, c'est vous poser une question sur le doute.
תראי, אני חי בהרגשה שהספק הוא חומר הגלם או חומר העשייה של כל העבודה הספרותית.
En fait, je vis avec l'impression que le doute est la matière première de tout travail littéraire.
אבל הספק הוא שלב מעבר.
Mais le doute n'est qu'une étape.
יש דברים שבהם מתוך כל הספקות צריכה להיוולד איזה ודאות.
Et de tous les doutes, il y a quelque chose qui doit naître, il doit y avoir une certitude qui naît.
יכול להיות שמתוך הוודאות ייוולדו ספקות חדשים.
Mais il est possible que de cette certitude naissent d'autres doutes.
אבל אני לא מרגיש שהמצב של הספק הוא המצב העליון או המצב התמידי שבו אני צריך להיות קיים.
Mais je ne pense pas que l'état de doute soit l'état où je dois me trouver en permanence ou l'état supérieur de
ישראל היא ארץ של סימני קריאה.
Israël, c'est le pays des points d'interrogation.
הרבה ישראלים הם סימני קריאה מהלכים.
Beaucoup d'Israéliens sont des points d'interrogation sur deux jambes.
אגב, זאת ה...
אקסלמציון.
אקסלמציון. הרבה, אגב, זה ההגדרה שלי לפנאט. פנאט הוא סימן קריאה מהלך.
En fait, c'est mon explication du fanatique. Un fanatique, c'est un point d'exclamation qui se promène, qui bouge.
Vivre en Israël n'invite à ne pas avoir de droit particulier, mais il y a une exigence en tant qu'auteur, l'exigence qui est la vôtre, d'envoyer le gouvernement au diable, ça on l'a bien compris, et souvent, il n'écoute pas beaucoup d'ailleurs. Mais est-ce qu'il y a aussi une fatigue parfois, cette lassitude que décrit Alef Bet Yehoshua dans son dernier livre « Feu amical » où un Israélien décide de vivre à l'étranger? Et est-ce que l'écriture finalement est à la fois une injonction et un remède à cette lassitude?
Je ne sais pas si l'écriture est un remède contre la fatigue, parce que écrire, ça fatigue énormément. Mais j'accepte cette fatigue comme faisant partie de ma vie. Je ne la laisse pas me submerger. Mais je comprends très bien la fatigue des Israéliens par rapport à la situation en Israël. Moi, j'ai un espoir vis-à-vis de la fatigue. Peut-être que cette fatigue mènera un terme à ce conflit entre les Israéliens et les Palestiniens.
רוב הקונפליקטים בהיסטוריה לא נפתרים, הם דואחים מתוך עייפות.
La plupart des conflits ne se résolvent pas dans l'histoire. Ils se terminent en raison de la fatigue.
רוב הקונפליקטים בין בעל לאישה או בין הורה לילד לא נפתרים, אלא דואחים לתוך עייפות.
La plupart des conflits entre époux ou entre parents et enfants ne se résolvent pas, mais s'éteignent à cause justement de cette
fatigue.
Et depuis longtemps, je cherche des signes de fatigue dans ce conflit entre Israéliens et Palestiniens. Les Israéliens et les Palestiniens commencent à fatiguer. Pas les fanatiques. Les fanatiques ne sont jamais fatigués. Mais la plupart des gens, en Israël et en Palestine, sont fatigués. Peut-être que cette fatigue amènera la paix.
C'est sur ce peut-être... que nous appelons aussi de nos voeux, qu'on nous allons terminer cette rencontre. Amos Oz, merci beaucoup. Vraiment. Et merci Michel.